Chapek, la promotion de M. Chalvet. Richard Chalvet, assis dans son cabinet de travail, rêvait. Depuis combien de temps, il n'aurait su le dire, mais le soir commençait déjà à faire place à la nuit, et celle-ci s'obscurcissait à vue d'œil. Les rayons de la pleine lune venaient de quitter le coin où il se tenait. Les titres dorés des livres de sa bibliothèque, contenant tout ce qu'on avait écrit jusqu'alors sur les protozoaires et en particulier sur les amibes, objet spécial de ses études, après avoir peu auparavant brillé dans la lumière de tout leur éclat, luisaient sans force dans l'ombre. Par contre, à gauche du savant, un grand thermostat, sorti de l'obscurité, gagné par les rayons de lune d'une blancheur de lys, et si attend ce jour-là que les pièces de nickel de l'appareil les reflétaient comme en une pluie d'étincelles. Le bord de la plaque du microscope qui porte les objectifs brilla même si fort sous la cloche de verre que Richard Chalvet en ressentit presque une douleur à l'œil droit. Celui-ci s'était en effet quelque peu affaibli pendant ses 30 années de travail intensif de jour et de nuit au microscope. Mais Chalvet ne le regrettait pas. Au contraire, il était tout prêt à sacrifier encore l'autre œil à la science sacrée dont il était un des grands maîtres initiés. Le sacrifice n'avait pas d'ailleurs été vain. Oh, certainement non. Chalvet sentit sa poitrine se dilater de satisfaction à cette idée. Bien qu'il lui fût resté longtemps ingrate et Gros garda jalousement son secret, la science se laissa finalement séduire par les incantations nocturnes tirées des in-folios au titre doré et livra à Chalvet la thèse que celui-ci ajouta au trésor du temple de sa divinité, immortalisant de ce fait son propre nom. Car après 25 ans d'études et d'expérience, Chalvet, jusqu'alors privat docent, sa notoriété à l'université et chimiste préparateur à l'Institut municipal pour le contrôle des denrées alimentaires, avait enfin réussi à colorer le réticulum dans le corps des amibes. Le colorer, c'était le rendre visible au microscope, c'est-à-dire en prouver l'existence scientifiquement, faire disparaître des ouvrages techniques des tournures comme « il est vraisemblable »,« il est à supposer », pour y substituer la simple affirmation incontestable, le fait exact et inébranlable. Mais la conquête de ce fait, Chalvet l'avait payé de 30 ans de sa vie, de privations et de sacrifices inouïs. L'idole de cuivre, gardée sous le globe de verre, le mauvais génie du microscope lui avait dévoré toute sa fortune et tous ses appointements. Mais ce qui usait le plus ses forces et sa santé, ce furent les expériences chimiques entreprises à la recherche d'une substance colorante permettant de faire apparaître le réseau d'une finesse ultra-microscopique qui caractérise le réticulum. Il réussit en progressant pas à pas, avec méthode, ce qui avait demandé de longues années de travail, tandis que l'invention de l'appareil vibrateur aux oscillations aussi minimes que possible, qui seul mena à sa découverte, fut l'œuvre d'un moment d'inspiration de son génie intuitif, comme l'avait dit textuellement les archives pour les études spéciales des protozoaires de Londres. La découverte que Chalvet venait de faire avait une portée mondiale, bien que limitée au monde des savants. Pour ceux-ci, le réticulum rendu visible signifiait une véritable révolution. Il n'y a pas de langue civilisée dans laquelle n'ait été publié depuis l'essai sur Richard Chalvet et sa découverte, faisant époque dans les annales de la biologie. Et lorsque le rude savant tchèque annonça la publication d'un nouveau système des amibes, où il démontrerait que des 42 espèces jusqu'alors admises Il n'en fallait retrancher 15, on en câbla la nouvelle aux savants naturalistes de toutes les parties du monde. Et l'insignifiant privat docent, simple adjoint d'un institut municipal, se vit promu, pour ainsi dire, sur le champ, professeur à l'université de Prague. Sans doute la chose ne s'était pas produite sans une influence étrangère. L'impulsion était venue d'un collègue japonais de Chalvet, son ancien camarade de laboratoire Heidelberg, qui avait, dans la revue de l'université de Yeido, publié en anglais, déclaré, non sans se tromper légèrement sur la situation politique de la Bohème d'alors, que ce pays-là ne devait être habité que par des gens de génie, puisqu'on y confiait les fonctions de contrôleur des viandes à des savants de premier ordre. Une telle louange ne manqua pas de produire une impression fort remarquable au ministère de l'Instruction publique à Vienne. Bref, le jour 20, où le journal officiel publia la promotion de Richard Chalvet, docteur en sciences, comme professeur à l'université. Et non seulement cela, à la suite même de cette nouvelle était annoncée la mise à la retraite du professeur X, conseiller Olic, irréductible adversaire scientifique de Chalvet et principal responsable de ce que le nouveau professeur avait failli célébrer le 25e anniversaire de son entrée en fonction comme le simple privat docent. Si l'on ajoute encore que le professeur Chalvet héritait de la chaire dont son ennemi avait été titulaire, on conviendra qu'il avait toute raison d'être satisfait. En se rappelant cet événement survenu le jour même, il était pénétré d'un sentiment intense d'ambition délicieusement chatouillé, bien excusable du point de vue humain et surtout universitaire. Sa main, ainsi que d'habitude à toute émotion agréable, s'étendit vers le porte-cigarette de bronze, mais pour la première fois de sa vie, il l'arrêta et la laissa retomber. La petite pile de cigarettes, sa portion de chaque soir, n'était pas encore entamée. L'imposante cafetière s'était déjà depuis longtemps refroidie, sans avoir donné la moindre petite tasse, et le morceau de sucre brillait intact à côté d'elle dans la lumière de cette nuit féerique. Dans un long et triste soupir, l'ambition délicieusement chatouillée s'envola. Le professeur se leva et ouvrit la fenêtre. La nuit magique, qui jusqu'alors n'avait regardé dans sa chambre que par l'œil rond de la lune, y pénétra toute et sembla l'enlacer de ses bras brûlants. Le murmure du barrage sur la rivière voisine fit irruption en même temps que le lourd parfum du jardin couvert de jasmin en fleurs. Mais il semblait que l'odeur humide du brouillard du fleuve émana plutôt des grappes blanches d'une immense marronnier qui les offrait de tous côtés d'un geste irrésistible de ses branches noueuses, loin au-dessus de la surface de l'eau et jusqu'à la fenêtre. Les hauteurs de Pétrine, dont la nuit transformait l'aspect, semblaient s'être rapprochées presque jusqu'au jardin. Les cimes de leurs arbres, inondées de lumière lunaire, se dessinaient avec un relief étonnant, bien qu'elles ne montrassent que deux nuances de vert d'une tonalité d'aquarelle. Mais Chalvet n'apercevait rien de tout cela, tout absorbé qu'il était à contempler son image, qui se reflétait sur la vitre avec une admirable netteté. C'était certainement une des caractéristiques optiques de cette nuit, que cette mise en relief dans le portrait sur la vitre de sa longue barbe grisonnante de savant. Tout ce qui était blanc était extraordinairement rehaussé par la lueur de la lune, notamment une partie argentée au milieu de la barbe et la petite flamme du Saint-Esprit au-dessus du front socratique de Chalvet. Et c'est derrière cette petite touffe de cheveux blancs que se dressait seulement la chevelure. Le professeur soupira par trois fois, car ces deux mèches grises auxquelles il avait jusqu'alors daigné faire aucune attention avaient justement provoqué son humeur morbide. À cause d'elle, il n'avait pas allumé sa lampe. Le café et les cigarettes étaient restés intacts, et il ne pensait même pas à se mettre au travail. Car ce jour-là, un doigt long et fin avait touché d'une manière fort significative ses mèches blanches, et une voix grave lui avait dit « D'ailleurs, l'état général est aussi à l'avenant. » Et celui qui avait dit ces mots n'était pas le premier venu. C'était un médecin d'une autorité irrécusable que Chalvet était allé consulter pour un œil avant de se résoudre à sacrifier encore l'autre, un grand problème du nouveau système des amibes. Le diagnostic que le spécialiste avait prononcé après avoir examiné soigneusement les yeux de Chalvet n'était point rassurant, et non seulement pour la vue du savant, usé par le travail au microscope à la lumière artificielle, le docteur venait de trouver sur la rétine du malade des symptômes d'un mauvais état de santé générale dont il ne pouvait, paraît-il, lui taire la gravité. En somme de ce que le docteur avait dit avec tous les ménagements possibles, il s'ensuivait que Charlevet marchait vers la sclérose, s'il en était déjà atteint. Le docteur s'était minutieusement informé du genre de vie du savant, et lorsqu'il connut son existence d'anachorète, il hocha la tête, fort étonné. Il sursauta même de surprise. Quant à sa question sur ses relations féminines, Chalvet lui confia qu'il était presque aussi innocent qu'un potage de cinquième. Il ne put même s'empêcher de sourire un peu, de sorte que Chalvet se vit obligé de répéter en rougissant « Oh, j'ai dit presque, docteur, presque !» Il fut par contre stupéfait quand Chalvet avoua les quantités de café et de cigarettes qu'il consommait toutes les nuits en travaillant. Le célèbre occultiste était véritablement horrifié en assurant à Chalvet que c'était là une quantité qui aurait suffi à la clientèle d'un petit café, et en lui précisant à moins après le moment où l'on commencerait l'inévitable fin, à moins qu'il s'abstint dorénavant de ces deux péchés mortels, pires que tous les autres réunis. Après avoir encore recommandé à Chalvet de passer au laboratoire du docteur Kutchera, rue des Bouchers, pour faire mesurer sa pression artérielle, il le congédia avec une certaine dureté. Cela s'était passé dans la journée même où sa nomination triomphale paraissait de journal officiel. Lui défendre le microscope, le café et les cigarettes, autant couper à une carpe les nageoires dorsales et abdominales et la rejeter à l'eau. Chalvet avait donc assez de raisons pour être mélancolique. Pourtant, il était plutôt irrité que triste. Bien qu'il n'ajoutât pas foi au célèbre oculiste et qu'il ne fût pas allé voir le docteur Kutchera, après avoir passé toute l'après-midi à se promener, il ne dîna pas, n'alluma pas sa lampe et s'abstint de nicotine et de caféine, bien que sa fidèle gouvernante eût tout disposé comme d'habitude. Chalvet admettait seulement qu'il était myope d'un œil et presbyte de l'autre, car il n'avait pu confirmer aucun des symptômes que le médecin avait énumérés. Sa mémoire était toujours excellente, il n'avait point remarqué de diminution de sa capacité de travail, et cet après-midi même, il avait gravi toutes les hauteurs autour de Prague pour voir s'il était sujet aux palpitations ou aux bourdonnements. Rien de tel. Mais je me sens guilleré, fait comme si j'avais 30 ans. Se dit-il à lui-même. Le fait est qu'il était au moins aussi vert que n'importe quel quinquagénaire. Mais pourtant, une sorte de peur et un de je ne sais quoi, ressemblant fort à du regret, s'était posté à ses côtés près de la fenêtre, ouverte par laquelle entrait le bruissement de la rivière. À l'instant précédent venait de passer un son aussi ravissant que l'odeur du jasmin. Un rossignol venait d'interrompre son chant, qui fit alors à Charvet l'effet d'une élégie pleurant les joies de la vie qu'il avait négligée. C'était sans doute parce qu'il eut conscience de ce chant que lorsqu'il eut cessé, que celui-ci l'impressionna de la sorte. Oh, pourquoi n'avait-il pas écouté le chant du rossignol? Pourquoi n'avait-il pas profité de la vie tant qu'il avait résonné le climat de la jeunesse? À présent, ce n'était plus que le murmure du fleuve, de la vie arrivée à la digue du cinquantenaire, qui lui parlait avec tristesse. Ah, ni la rivière, ni la vie ne remontent vers leur source. Chalvet jeta un regard presque lu haineux sur son idole qui brillait sous sa cloche de verre et à laquelle il avait tout sacrifié, jeunesse, santé, joie et jouissance auxquelles participe tout être humain, même le plus pauvre. Toute la soirée, le restaurant installé sur les hauteurs de Pétrine avait retenti une bruyante musique militaire. Bien qu'il eût fermé les fenêtres pour se soustraire à la solidité de ses sons, maintenant que ce concert avait pris fin depuis longtemps et que les lumières là-haut dans le parc s'étaient éteintes, il eut la nostalgie de cette musique, tout comme du chant du rossignol, et lui sembla que tous les morceaux joués l'avaient été en mode mineur. Oui, il avait laissé échapper toutes les voluptés de la vie, et non seulement les grossières, mais les divertissements mondains, théâtre, littérature, grands concerts, voyages, sport et Dieu sait quoi encore, dont il ne se doutait même pas. Et tout cela pour le réticulum de l'amabon Proteus d'Eisenberg et pour le nouveau système des amibes. Inconsciemment, ses doigts atteignirent une cigarette, car jusqu'alors, à chaque sensation émotive, fut-elle douloureuse, il en grillait une. Mais cette fois-ci ne l'alluma pas. Il se souvint de sa visite chez l'oculiste et de ce que lui-ci avait dit pour le mettre en garde contre les deux péchés mortels les plus pernicieux. Il la remit docilement sur le tas et se mit à arpenter de long en large le spacieux cabinet de travail. Que diable! Jamais de sa vie ne s'était laissé aller à broyer du noir comme ce soir. Ah, s'il n'était pas allé voir ce médecin de malheur, il est certain qu'à ce moment il n'aurait plus conscience du monde. Penché sur le microscope, il continuerait, à la lumière crue de sa lampe Osram, à étudier comment se comporte le réticulum de l'individu maternel, se divisant en deux individus. Il fumerait cigarette sur cigarette, boirait une tasse de café après l'autre et ne se douterait même pas qu'il y eût dans ce monde des amusements et des divertissements terre à terre qu'il dut regretter de n'avoir pas connus. Chalvet fit une grimace à son image sur la vitre, à sa barbe blanche et à sa mèche frontale qui lui avait valu le sobriquet de Saint-Pierre. À ce moment, la fenêtre d'en face, de l'autre côté de la rue étroite, s'ouvrit avec fracas et le crochet frappa le mur d'un coup sec. Une blanche silhouette de femme, ayant poussé violemment les deux battants, aspira deux ou trois fois, s'écroula de tout son poids sur l'appui de la fenêtre au point qu'on eût pu craindre pour ses deux jeunes seins, et se mit à respirer l'air à plein poumon. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Par la fenêtre ouverte, fusa un clair rire juvénile, et derrière la jeune fille, une autre forme blanche apparut. Le jeune homme riait d'une voix dont la mue était encore récente. Il semblait à Chalvet que l'éclat de rire lui parvenait amplifié, car la chambrette d'en face était très basse de plafond, et la jeune fille, prise de gaieté, pâmée à la fenêtre, secouait la tête comme persuadée enfin que quelque chose qui lui avait paru auparavant incroyable. Soudain, comme mue par un ressort, la svelte silhouette se dressa, se jeta au cou du jeune homme et l'enlaça. Elle l'embrassa, elle l'embrassa. Elle l'attira vers la fenêtre, l'étreignit autour du cou et sous l'aisselle en le couvrant de baisers. Ils avaient plutôt l'air de deux jeunes filles que d'un homme et d'une femme. L'amante semblait même plus virile que lui. Blonde, hein, tout jeune, à la croche-cœur collée sur la tempe. Il riait de son insatiabilité de bacchante qui semblait n'avoir pas assez de bras pour l'étreindre à sa guise. Qui aurait cru que l'instinct de la femme fut déjà si développé chez cette jeune lingère, courbée du matin au soir sur sa machine à coudre et qui jetait de temps à autre sur la maison d'en face un coup d'œil indifférent. Quant à lui, il levait les épaules avec un sourire condescendant et un peu fat, sans répondre à sa fougue. Tout au plus lui mettait-il les mains sur les épaules, encore presque enfantine, lorsqu'une caresse durait trop. Ses baisers étaient si brusques et si vifs qu'une mèche noire, détachée de sa chevelure à moitié défaite, ne cessait de remuer à chaque mouvement de la tête. Mais lorsque le paroxysme de sa passion se détendit et se changea en une simple tendresse, et que la jeune femme pressa doucement sa joue contre celle de l'adolescent, ce fut lui qui ne résista pas davantage et fit en sorte que leurs lèvres se rencontrassent. Alors ils s'embrassèrent avec une telle force réciproque que Chalvet n'eût pas été étonné d'entendre le craquement de leurs coudes. Avant que Chalvet ne fût revenu de sa surprise, les deux ombres avaient disparu comme si on en avait effacé leur blanche silhouette, et le professeur regardait la fenêtre vide qui lui montrait son front noir semblable à une bouche s'ouvrant d'un air narquois en réponse à un curieux importun. Comme toutes les très vieilles maisons, celle d'en face avait aussi une façade expressive dont les badigeonnages successifs au cours des siècles avaient défiguré la fine ornementation primitive. Et cette façade caractéristique semblait apostropher Richard Chalvet, professeur à l'université et docteur en sciences. « Eh bien, mon vieux, qu'as-tu à faire l'étonner, comme si tu ne te doutais pas de ces choses-là? Eh oui, c'est comme cela que ça se passe. Cela ne peut ni ne doit être autrement. » Oh, un autre jour, Chalvet n'aurait même pas daigné jeter un coup d'œil sur ces deux amoureux dont les folies ne lui auraient pas paru dignes d'un sourire de pitié. Mais ce jour-là, le savant, fatigué de sa veille, ressentit le besoin de se désaltérer malgré toutes les défenses de la faculté. On entendit le bruit de quatre morceaux de sucre tombant dans la tasse. Mais il ne versa pas. Mais au même instant, un frisson le saisit. La flûte du rossignol se mit à retentir dans le jardin, et la mélodie monta, si forte et victorieuse, qu'elle fit taire même le murmure de la rivière. Chalvet eut toutes les peines du monde à faire rentrer une larme qui gonfla sa paupière, et, chose étonnante, il n'eut aucune honte de sa faiblesse sentimentale, tant le toucha le rossignol avec son commentaire de la loi proclamée l'instant auparavant par la vieille maison, dans laquelle durant des siècles des générations d'hommes avaient vécu et avaient aimé. Et c'est cette loi éternelle de l'amour qu'il avait traînée tout enregistrant les lois de la nature. qu'il avait méprisé tout en examinant sous la lentille de son microscope comment la remplissaient les protozoaires. Il l'avait trahi, cette loi, à son grand préjudice et pour son malheur même. Comme il regardait la façade de la maison d'en face, inondée par la lueur de la lune, et le trou noir de la fenêtre toujours béant, une jalousie intense le saisit à l'égard de la jeune fille et même à l'égard de toutes les femmes en général, à commencer par celle dont il n'avait plus aucune souvenance. Et l'étoile, qui une heure avant s'était levée derrière le pétrinet, clignotait comme si elle avait envie de dormir sur la crête du pignon d'en face avant de disparaître derrière lui. Le rossignol s'était tu de nouveau, car pour lui aussi il ne s'était agi que d'un intermède dans cette nuit d'amour. La nuit elle-même respirait avec calme. Seule la rivière continuait de bruire. Charvet éprouvait un sentiment extraordinaire d'inquiétude. Il fut soudain impossible de tenir en place. Il fallait absolument qu'il partît à la conquête de ce qui lui restait encore de bonheur. Il fallait qu'il le trouvât encore cette nuit même, coûte que coûte, avant que la prophétie du docteur ne se réalisât. Il prit son chapeau et sortit à pas de loup pour ne pas éveiller sa gouvernante. Ses précautions étaient inutiles. Il n'avait point à craindre de troubler le repos de Mademoiselle Philomel, car la pâle lueur visible au bout du couloir à travers la porte vitrée témoignait qu'elle veillait encore. Instinctivement, il s'approcha, mit la main sur le bouton de la porte, ouvrit. Il n'était plus temps de reculer. Il entra. Un cri et la lumière s'éteignit, mais pas assez promptement pour qu'il eût d'un coup d'œil jugé de la situation. En d'autres temps, Chalvet aurait, dans une telle occurrence, pris discrètement la fuite, mais cette fois-ci, il resta. C'était peut-être la lourde atmosphère saturée de l'odeur capiteuse du savon de toilette qui en était la cause, ou peut-être n'avait-on pas soufflé la flamme de la lampe assez vite. Et non seulement il resta, mais il avança de quelques pas. Mademoiselle Philomène était à sa merci. En éteignant la lampe, elle avait rendu toute sa force au clair de lune, et ce fut dans cette clarté blanche qu'elle se réfugia dans son trouble. Elle se blottit dans l'angle de la fenêtre, et bien que les vitres fussent garnies de rideaux de mousseline, sa tête projetait sur le mur une ombre aussi épaisse que s'il eût fait soleil. Elle pria, elle conjura Chalvet, qui de ses lèvres sèches balbutia quelques mots sans suite. Lorsqu'elle lui ordonna enfin de s'en aller, il se mit bien en marche, mais vers elle. Elle trépigna de ses pieds nus. « Mais comment ? » demanda-t-il, quoiqu'elle se fût tue et ne le brava que du regard. Chalvet fut saisi comme d'un frisson de fièvre en voyant comme Philomène avait embelli. Le gigantesque et savant édifice de son chignon était défait, ses immenses cheveux dénoués ruisselaient sur les tempes, le visage et la gorge, sinon qu'il formait par la seule pression des bras, un ample peignoir, seul vêtement de Mademoiselle Philomène à ce moment. Maria l'Égyptienne ! Elle murmura quelques mots d'une voix plaintive, sans qu'il la comprît. Lui aussi, il voulut dire quelques mots, mais il ne put articuler qu'un son rauque. Il ne pouvait pas détacher les yeux des épaules de la femme dont la blancheur émergeait du voile sombre de sa chevelure. Sans doute, il y avait longtemps que ses épaules avaient cessé d'être demi-enfantines. Mais lorsqu'elle leva ses bras tremblants et que ses doigts s'enfoncèrent convulsivement dans les siens, que leurs mains se mirent à trembler à l'unisson de la même fièvre, Richard Chalvet n'essaya même pas de récupérer le peu de sang-froid qu'il avait gardé en franchissant le seuil de la chambre. Lorsqu'il rentra dans son cabinet et s'avança vers la fenêtre, restée ouverte, les hauteurs de Pétrine avaient reculé à leur place ordinaire. Au lieu du cantique du rossignol, résonnait le piaillement éperdu des moineaux qui prenaient leurs ébats dans les branches du marronnier noirci par la rosée. La lune, prise dans une découpure bleue du ciel entre la Pétrine et le pignon de la maison d'en face, était voilée de brouillard et pâle comme si elle était de platine. Elle avait dépensé et épuisé toute sa lumière. La fenêtre des deux amants était refermée et l'éloquente façade de la maison avait repris son silence de mort indifférent dans l'aude blême des premières heures du matin. Chalvet, près de la fenêtre, fumait et buvait. Il avait jeté tout le sucre dans la cafetière, buvait tasse sur tasse et fumait cigarette sur cigarette. Il riait maintenant comme le gamin d'en face avait fait à minuit. La nuit passée l'avait rendu cynique, lui le grison. Il n'avait plus de motif de rire. Il se rappela de nouveau et se répéta, après combien de fois déjà, ce que Philomène avait murmuré de sa voix plaintive avant que leurs mains se fussent réunies. « Non, non, à quoi pense monsieur ? Mais je me marie demain, l'avez-vous oublié ? » avait-elle balbutié, tout en l'attirant de ses bras frémissants. « Mais oui, oh, c'était parfaitement vrai qu'il l'avait oublié, ce mariage. » Et pourtant, sa qualité de témoin de la mariée, il était de la noce. Comment ne lui était-il pas venu à l'esprit quand il poussa la porte de sa chambre? Il se rappela comment le fiancé, affublé de son uniforme bleu de chef de train, était venu lui demander la main de mademoiselle Philomène, à lui, le remplaçant du père. Comme il s'était exprimé, obéissant sans doute à un désir délicat de la fiancée. Ah, il avait fait du beau. Voilà qu'il lui avait volé sa nuit de noces au chef de train. Et tout ce que le docteur lui avait le jour même raconté au sujet de sa régression et de l'involution, de la marche rétrograde de l'évolution du corps humain, de l'extinction lente de la vitalité. Sornette que tout cela! Cela le fit rire de nouveau. Il se sentait heureux, car il voyait qu'il était toujours capable de s'emparer de toutes les délices de la vie, jusqu'alors négligées, dont le nombre était encore pour lui illimité. Frais et allègre, il suivait des yeux l'étincelle qui courait gaiement le long de sa cigarette, s'avivant à chaque bouffée. Il se sentait fort à son aise. Seul son sang d'ébullition ne voulait pas se calmer. Qu'il pensait à Philomèle avec une tendre reconnaissance. Il la voyait sans cesse baignée de lumière dans sa pudeur impuissante qui menaçait de rendre la situation comique. Il se souvenait de ses efforts hypocrites pour se débarrasser de lui tout en lui prodiguant des caresses passionnées. Il se rappelait aussi sa plainte amère qui revenait sans cesse. Ah, pourquoi monsieur n'est-il pas venu autrefois? Avait-elle répété en sanglotant. Pourquoi n'est-il pas venu lorsqu'il y a 8 ans, je suis rentré à son service en héritant de la place de ma sœur sans que monsieur se fût même aperçu du changement? À présent, il est trop tard. Je ne peux trouver le brave homme qui va me donner son nom. Et à qui, dans quelques heures, je dois promettre au pied de l'autel obéissance et fidélité pour la vie. Et quand il fut démontré qu'il n'était point trop tard, cette confession brûlante de son adoration de 8 ans pour son maître, et cet aveu qu'elle avait cessé de s'enfermer à clé la nuit lorsqu'elle avait acquis la certitude de lui être tout à fait indifférente, et les remerciements coupés de sanglots de lui avoir donné ce bonheur, si grand qu'il suffirait pour le reste de sa vie et ferait taire le remords d'avoir trompé son fiancé. Il allait sans dire que le mariage avec le chef de train n'aurait pas lieu. Commettre un adultère, et surtout séduire une fiancée avant le mariage, ce sont des condiments piquants de la légende donjuanesque. Et Chalvet eût peut-être donné bien des choses sans pouvoir se hisser à un si haut degré de désinvolture. Mais en arpentant son cabinet d'un pas si lourd que quelque chose trembla dans le thermostat mal équilibré, Chalvet se promit solennellement de se réserver Philomène. Et voilà qui ne peut se rappeler son nom de famille. À cet égard, le docteur avait peut-être eu raison. Sa mémoire baissait vraiment. Il en était même un peu humilié. Et qu'il faisait étouffant ce matin. Où est-ce lui qui avait si terriblement chaud? Il n'aurait peut-être pas dû boire tant de café. Ou bien se consumait-il inextinguablement comme un gisement stylulier ayant pris feu après des milliers d'années, brûlant lentement? « Mais où en étais-je » balbutia-t-il. « Ah oui, je sais. Oh, je garde Philomène. Ce mariage est désormais impossible. Mais que diable, je n'ai pas encore dit un traître mot de tout cela. Il faut que je lui annonce sans retard. Il n'y a pas une minute à perdre. Le mariage est pour 7 heures. Il faut qu'à ce moment-là, Philomène et moi, nous soyons loin. Ah oui, c'est cela. Nous partons ce matin et restons en voyage jusqu'à la rentrée des classes. Dirais-je, je ne connais pas encore l'institut océanographique de Monte Carlo. La chose ne souffre pas de retard. Oui, mais comment me présenter à elle en plein jour, tout de go, sans prétexte ? Se demanda-t-il, pris soudain d'un embarras étrange. Bah, je vais aller chercher de l'eau. Je brûle d'ailleurs à suffoquer. J'irai moi-même à présent, j'ai perdu le droit de sonner pour qu'elle vienne. Chalvet s'élança dans le corridor et dans sa hâte enfonça presque la porte de Philomène. Comme il l'effraya. Mais pourquoi ce cri d'angoisse? Pourquoi cette expression de terreur sur son visage? Pourquoi se jette-t-elle ainsi au-devant de lui? Quelle étrange sensation il ressent! Il étouffe, il souffle sans pouvoir reprendre haleine. C'est comme si une boule immense venait de lui croître soudain entre les côtes et l'empêchait de respirer. Oh, il serait tombé par terre si elle ne l'avait reçu dans ses bras. Maintenant, il se sent un peu mieux. Si seulement il ne lui posait pas des questions d'un air si soupçonneux, s'il comprenait du moins ce qu'elle lui demandait. Impossible d'articuler une syllabe. Ce ne sont pas cette fois les lèvres, mais la langue qui semble desséchée. D'un effort suprême, il finit par murmurer un seul mot. « Oh, de l'eau !»« Philomène, mais pourquoi se lamente-t-elle ainsi ?»« Bondit chercher un verre. »« Non, décidément, il ne va pas bien. » S'il ne s'appuyait pas sur le bois de lit ou sur quelque autre meuble, il tomberait. La chambre tourne lentement autour de lui. Ah, enfin voilà de l'eau. Il l'avale jusqu'à la dernière goutte. Il aspire profondément, comme il n'a peut-être jamais aspiré de sa vie. Le vertige est passé. Mais pourquoi est-il venu? Qu'a-t-il donc à lui dire? Mon Dieu, s'il pouvait au moins faire un mouvement pour s'en aller. Quelque chose de terrible s'est passé en expiation. Ne va-t-il pas se produire quelque chose de pire? L'horreur de cette chose inconnue le regarde à travers les yeux hagards de la femme dont il ne peut détourner la vue. Il chancelle encore un moment et il va s'écrouler s'il ne s'accroche pas à elle. La danse en rond de tous les objets autour de lui continue, toujours plus vertigineuse. Il lui semble qu'ils sont mis aussi, tous les deux, à danser. Mais au moment où il quitte son appui pour se jeter à son cou, il a la sensation qu'une force immense affaisse le plancher sous ses pieds, monte, traverse son corps et, arrachant le cœur en chemin, l'emporte vers la tête. Il entendit que le début du cri désespéré de la femme. Il vit encore dans un éclair son tablier blanc et sa silhouette noire avant qu'il disparusse, mais il ne sentit plus le choc lorsque sa tête cogna lourdement contre le plancher. De cette manière, le mariage de Mademoiselle Philomène eut lieu tout de même, et le jour fixé, bien que le fiancé eût voulu à tout prix que l'on remît la cérémonie après les funérailles. Il estimait, disait-il, le vieil homme comme son propre père. Mais Mademoiselle Philomène se montra inflexible. Il s'en fallut de peu que les fiancés ne se disputassent. Tout ce qu'elle concéda fut que la noce fut célébrée l'après-midi. On ne pouvait d'ailleurs faire autrement, car il fallut allumer les cierges autour de la bière avant qu'on allumât ceux de l'hôtel nuptial.